Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. En voici les titres. Les ressortissants étrangers, plus de 150 000 réfugiés en RDC, notamment des Burundais, des Rwandais, des Centrafricains, des Soudanais, ont 2 mois pour quitter le sol congolais, d'après le vice-ministre des Affaires étrangères. Leur pays ne respecte pas l'accord d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité. Et puis un agent de la CENI, sensibilisateur de la machine à voter à l'antenne d'Ubuntu dans la Tchopo, kidnappé par des ravisseurs inconnus. Ces derniers réclament une rançon pour sa libération. Son père crie au secours. Le chef d'antenne dit avoir transmis l'appel à la hiérarchie de la CENI. Enfin, des opposants ont été de nouveau empêchés par la police de se réunir hier dimanche. Et cela s'est passé à Lubumbashi, dans le Katanga. C'est une rencontre qui devrait se tenir entre le coordonnateur provincial de la plateforme Ensemble pour le changement et les députés venus de Kinshasa ainsi que les partisans dans sa résidence officielle. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. La RDC accorde un moratoire de 2 mois à tous les pays dont leurs ressortissantes trouvaient refuge sur le sol congolais en vue de leur rapatriement. La décision a été annoncée vendredi dernier à Lubumbashi par le vice-ministre en charge des affaires étrangères lors d'une conférence de presse. Ajema Tembo revient de Kampala où il a assisté au sommet des chefs d'État membres de la CIRGL. La RDC accueille aujourd'hui près de 250 000 réfugiés rwandais, 185 000 burundais, 700 000 centrafricains et près de 300 000 sud-soudanais. Et le pays constate que plusieurs États ne respectent pas l'accord d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité, déclare Ajema Tembo. Les propos du vice-ministre en charge des affaires étrangères sont recueillis par Neuilly Kabena.
Aujourd'hui, il était question de pouvoir aller évaluer. 5 ans après, nous venons de nous rendre compte que parmi les signataires, il y a des États hypocrites. Des États qui ont compris que la fin de l'insécurité à l'est du pays, ça sera la chute économique de leurs États respectifs, en complicité avec leurs frères qui viennent pour insécuriser le pays, en pillant nos minéraux, en violant nos mamans, nos sœurs, et en prenant tout sur leur passage. Donc parmi les premiers mécanismes, ça sera riposte sans pareil d'ici 2 mois. Et deuxième mécanisme, pour terminer cette insécurité là-bas, nous nous sommes dit que chaque pays qui a signé cet engagement au niveau d'Addis Abeba dans le cadre de cet accord de paix et de sécurité au niveau de la RDC et dans la région de la CIRGL, nous avions demandé à ce que chaque pays respecte ses engagements.
Et puis cette indignation de l'ambassadrice des enfants Solange Gonda face aux expulsions massives et moins humaines de Congolais vivant en Angola. Elle demande aux dirigeants de ces pays de respecter les droits de l'homme, à la communauté internationale de sanctionner les responsables militaires angolais et au mouvement citoyen Debout Congolais des syndicats de Colo de dénoncer à haute voix cette actes barbares et inhumains. Écoutez l'ambassadrice des enfants Solange Gonda au micro d'Innocent Olinga.
On a vu ces derniers temps l'Angola demander au gouvernement congolais de respecter la constitution. Aujourd'hui, eux aussi doivent respecter la charte de l'Union africaine, la charte des droits humains. On ne peut pas chasser des gens comme ça massivement sans prévenir, comme si c'était des bêtes. Nous sommes un pays de la SADC et l'Angola est aussi un pays ami de la SADC. Aujourd'hui, quand je regarde que nos généraux de l'armée congolaise, de la police, sont sous sanction pour des actes qu'ils ont fait, qui sont même moins violents que ceux que l'Angola est en train de faire. Je ne vois pas la communauté internationale interpeller ou bien prendre des mesures. Mais si c'était juste un seul général congolais, le monde entier allait crier au secours. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 Congolais qu'on est en train de brutaliser et de chasser. Ça se fait pas comme ça. Nous devons respecter la vie humaine et nous devons nous respecter entre nous les Africains.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, un agent de la CENI antenne d'Ubuntu serait kidnappé par des inconnus alors qu'il s'est trouvé en pleine sensibilisation de la population sur la machine à voter. L'incident s'est produit sur la route de l'Ituri vers le point kilométrique 92 de Kisangani. Selon le père biologique de la victime, Marcel Mosengo, son fils est parti en mission de sensibilisation initiée par la CENI depuis 2 semaines. Ce n'est que ce samedi qu'il a reçu un coup de téléphone lui annonçant sa détention dans la forêt par des inconnus. Ses ravisseurs exigent une rançon de 200 000 dollars américains, de 2 000 dollars américains pour qu'il soit libéré. Il demande à la CENI de tout faire pour obtenir la libération de son fils. Il est joint au téléphone par Jacques Moukonkole.
Il est parti seul de Bundu pour la sensibilisation sur la machine à voter. Il s'est fait accompagner dans ce secteur-là par le chef de chefferie. Quand il a été arrêté, on lui a demandé des renseignements relatifs à sa résidence et à son identité. C'est ainsi qu'il leur a donné son adresse et ont cherché à savoir s'il a des connaissances ou des parentés à Ubundu. Lui-même nous a téléphoné pour nous dire qu'on l'a arrêté pour qu'il leur donne de l'argent. On lui exige 2000 dollars pour sa libération, faute de quoi il sera exécuté et la machine sera détruite. Qui sont ces gens? Sont-ils des militaires, des maï-maï ou des gens de la contrée? Eux, ils sont dans la forêt. Nous ne savons rien. L'enfant nous a dit seulement qu'il est arrêté. On lui a bandé les yeux, il n'entend que les bruits, il ne voit rien. Notre demande est que les gens de la CENI envoient de l'argent pour que l'enfant soit libéré et qu'il y rentre.
La victime âgée de 19 ans est étudiant en premier graduat à l'ISP Ubundu. Le chef d'antenne de la CENI Ubundu, Jonathan Soulobik, a confirmé ces informations. Il dit avoir déjà saisi sa hiérarchie au niveau provincial. À Lubumbashi, les opposants ont été de nouveau empêchés par la police de se réunir hier dimanche. La rencontre entre le coordonnateur provincial de la plateforme Ensemble pour le changement, les députés membres de l'opposition venus de Kinshasa et les partisans devrait se tenir en la résidence de Gabriel Kiungu à Kumonza. Mais un dispositif important de la police déployé autour de cette résidence a dispersé tout attroupement et interdit toute entrée ou sortie. Quelques jeunes ont été interpellés. Écoutez, Eve Bazaï, secrétaire général du MLC, joint au téléphone depuis Lubumbashi par Innocent Olenga.
Ma présence à Lubumbashi pendant les 48 heures, c'est comme si on était en enfer. Dès l'arrivée à l'aéroport, deux militants MLC ont été arrêtés parce que portant des t-shirts à effigie de M. Bemba. J'arrive à la Kenya, là-bas, je suis accueilli par des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes. La même chose en Janja où on nous a poursuivis. Et aujourd'hui, le patriarche Kiungu a appelé toute la délégation, comme on dit chez nous, pour nous donner l'épaule, nous encourager. Mais on a été séquestrés comme je suis arrivé avant, et les autres collègues, l'honorable Sesanga, M. Ndundu, l'honorable Lutundula, et tous les autres collègues de l'UDPS, ont été empêchés. Et l'arsenal policier barricadait tous les quartiers, pas d'entrée, pas de sortie. C'est pas possible, c'est incroyable. Lubumbashi, c'est une prison à ciel ouvert. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe?
Autre nouvelle, le M17 El Kiku Kama propose à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de décentraliser l'opération de contrôle des noms des candidats à l'élection de décembre 2018 et des logos de leurs partis politiques. Proposition formulée ce dimanche ici à Kinshasa. Selon Augustin Kiku Kama, président de ces partis politiques, la décentralisation permettra aux antennes provinciales de la CENI de s'assurer de l'effectivité de l'identité et de la photo des candidats et ainsi éviter plusieurs anomalies déjà constatées dans cette opération. Augustin Kiku Kama est au micro de Paul Matendo.
Décentralisation veut dire amener ça au niveau de chaque province pour que les mandataires de partis politiques ou les responsables de partis politiques puissent vérifier l'effectivité entre la photo, les noms, les logos qui est au niveau national, parce que on peut aujourd'hui prendre la photo de quelqu'un et les noms apparaissent, mais c'est pas la même personne. Voilà pourquoi c'est une suggestion que nous donnons à la CENI, s'ils peuvent décentraliser ça au point qu'ils affichent, ils donnent 3 jours. S'il n'y a pas de réclamation, on considère que l'opération est terminée, au lieu que les gens puissent partir ici, passer toute une journée en train de vérifier ou de recevoir les partis politiques.
En ce qui concerne votre parti, quelle est la situation exacte?
Les mandataires sont allés vérifier ce qui a un peu d'anomalies qui ont été constatées, à ce sens que les noms sont là, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de logo. Alors qu'au dépôt des candidatures, chaque dossier avait la copie des logos du parti.
Enfin, Patrick Mouyaya s'est dit satisfait d'avoir contribué significativement aux efforts déployés à l'hémicycle pour voter 182 lois. Déclaration faite ce week-end à Kinshasa lors de la présentation de son bilan de 7 ans comme député national devant ses électeurs. Cependant, se confiant à Radio Okapi, Patrick Mouyaya reproche à l'Assemblée nationale de n'avoir pas assuré les suivis des recommandations de législateurs. Patrick Mouyaya est joint au téléphone par Askin Zigbia Tayoro.
Notre plus grande victoire du point de vue du contrôle parlementaire aura été l'initiative adressée à l'époque à Thomas Luaka pour la réduction du coût de l'Internet. Et aujourd'hui, les prix, si on devait appliquer le nouveau tarif que les opérateurs voulaient appliquer à l'époque, on serait dans des rapports de 1 à 3 aujourd'hui, mais cela n'a jamais été fait. Nous sommes restés vigilants sur toutes les questions qui concernent les télécoms parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent Internet pour la rentabilité de leurs entreprises. Et mes plus grands regrets, pour ne pas dire nos échecs, j'estime que l'Assemblée nationale n'a pas été courageuse dans les suivis de nos recommandations en termes de contrôle parlementaire. Nous avons fait un travail de contrôle, mais nous ne sommes pas assurés que les recommandations que nous avons formulées ont été effectivement mises en œuvre par le gouvernement. Ça, c'est une faiblesse. La deuxième faiblesse qui, à mon avis, est la plus grande, c'est que nous n'avons pas du tout communiqué en tant que chambre. Lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, les gens disent ce que vous ne faites pas.
L'invité. Notre invité de ce matin est le coordonnateur national de la cellule des infrastructures, Baudouin Manzinzassa. Il nous parle de la Banque mondiale qui a accepté de reprendre le financement des travaux de réhabilitation et d'entretien des routes nationales de la RDC qu'elle a suspendu depuis plusieurs mois. Il s'entretient avec José de Chartemenga. Monsieur Baudouin Manzinzassa, bonjour. Quelle est l'évolution du dossier des financements des routes de la RDC que la Banque mondiale a suspendu?
Il y a une mesure officielle qui avait été prise par la haute hiérarchie de la banque. Et au début du mois de septembre, la Banque mondiale a examiné le rapport qui a été déposé par le panel d'inspection qui était diligenté suite aux plaintes qui étaient enregistrées contre le projet de route. Et au cours de cette réunion, la Banque mondiale, au regard de l'examen des rapports, a marqué son accord pour la levée de la mesure de suspension. Mais il fallait attendre l'avis de notification formelle qui devait dépendre des conclusions de l'émission qui vient de se dérouler. Ça peut prendre 3 ou 4 semaines avant que le gouvernement de la RDC soit notifié officiellement. Donc il n'y a pas une date précise, mais l'échéance prochaine que la mesure sera levée, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 semaines.
Oui, mais quels sont les griefs précis que cette mission de la banque reprochait à Zengwe, par exemple, qui exécutait les travaux sur le RN4?
C'est-à-dire que la mesure a été prise à titre préventif. Il y a eu des plaintes sur le chantier de la route Bukavu-Goma, des allégations de violences sexuelles, de violations des droits de l'homme et aussi certaines non-conformités aux mesures environnementales et sociales. Et c'est pour ça que la banque avait, à titre préventif, pris cette mesure de suspension. Ensuite, elle a délégué un panel d'inspection qui a inspecté, qui a fait des enquêtes et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport a été déposé auprès de la banque. Et au mois de septembre, la banque a examiné ce rapport et l'avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, marqué son accord de principe pour la levée de la mesure. L'avis de notification formelle dépend des conclusions de la mission qui vient de se dérouler.
Oui, quelles sont les routes au niveau de l'ex-Grande Province Orientale que la banque finance et qui souffrent de cette mesure?
D'abord, il faut savoir que la mesure concernait tous les réseaux du projet pour route. Donc, c'est presque 3385 km à travers tout le pays. Et dans l'ancienne province orientale, il y a la route Kisangani, Bouta, Doulia, Aketi, Burunduki, 525 km. Et maintenant sur la RN4S, il y a la route Kisangani, Nyanya, Komanda, Bunia, Mahagi, et puis la route aussi Komanda jusqu'à Beni. Donc voilà les réseaux qui étaient concernés dans la grande province orientale.
Est-ce que vous avez une idée plutôt sur le montant global, l'enveloppe allouée par la banque dans ces projets pro route pour la Grande Orientale, par exemple?
Ce serait difficile que je te dise que pour les routes concernant la province orientale, il y a tel ou tel montant. Mais par contre, on sait que l'enveloppe globale du projet pour route avoisine les 400 millions de dollars. On a bénéficié de 3 financements. Le financement additionnel, plutôt initial, et le financement additionnel, le premier et le deuxième.
Donc ça veut dire 400 millions de dollars sur l'ensemble du pays.
Oui, sur l'ensemble. Et même au cours de cette mission, la banque a réaffirmé la volonté de poursuivre la coopération avec la RDC dans le secteur des infrastructures. Donc il est possible qu'on ait un projet pour route 2. En fait, techniquement, on ne reprochait rien au projet. Mais c'est dans le cadre de la gestion environnementale et sociale qu'on a eu des problèmes. Donc
mais
il faut le souligner. Donc,
oui, techniquement, pourquoi par exemple certaines routes ne pourraient pas carrément être bitumées à la demande du gouvernement de la RDC que de faire des routes en terre battue?
La philosophie du projet était d'abord d'ouvrir le plus grand nombre possible de routes pour désenclaver le plus grand nombre possible de collectivités de l'arrière pays qui étaient désenclavées. Donc c'était ça le premier souci. Mais avec la réouverture de la route, avec la reprise des trafics, c'est possible, si les moyens permettent, de bitumer les routes. Et d'ailleurs, la banque même est disposée, dans le financement qui viendra dans le cadre du projet pour la route 2, de prendre en charge, je crois, une ou deux routes qui seront bitumées.
Mais en attendant, parce qu'il y a des gens qui souffrent, vous l'avez appris que sur la RN4 notamment,
notamment entre Komanda et Kisangani. Près de 700 véhicules sont bloqués. Mais est-ce qu'au niveau du ministère des ITPR, il n'y a pas une solution palliative pour remédier à la situation au plus pressé?
Je ne suis pas du ministère. Moi, je suis de la cellule d'infrastructure. Nous avons en charge un réseau dont on s'occupait, mais qui malheureusement a connu ce problème qu'on vient d'évoquer. Notre souci à nous, c'est de reprendre le cours normal du projet pour qu'on reprenne les travaux. Bon, qu'est-ce qui est décidé au niveau du ministère? Là, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut poser la question.
Je vous remercie.
Ok, merci.
Merci José de Chartemenga. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.